Bienvenue sur France Inter, il est 8h. Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Le 15e samedi de mobilisation des Gilets jaunes à la une de l'actualité. Un samedi marqué par une mobilisation en légère hausse et une motivation toujours intacte. Record battu pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État passait hier plus de 14 heures au salon de l'agriculture. Une heure de plus que l'an dernier. La fin aujourd'hui du sommet sur la pédophilie au Vatican et la montée de la pression internationale sur le Venezuela alors que les États-Unis annoncent leur intention d'intervenir. À la fin de ce journal, un hommage au réalisateur de Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, Stanley Donen, décédé à l'âge de 94 ans. À 8h10, le journal des sports présenté par Cédric Guillot et le sursaut des rugbymen français vainqueurs hier des Écossais, 27-10. Et puis à 8h20, le deuxième invité de la matinale, l'écrivain et chercheur Christian Salmon, Éric Delvaux.
Oui, il vient d'écrire L'ère du clash. Christian Salmon, c'est l'homme qui avait théorisé en France il y a 10 ans ce qu'on appelle le storytelling. Il revient, L'ère du clash. Christian Salmon, rendez-vous à 8h20.
France Inter.
46 000 gilets jaunes bien décidés à ne rien lâcher, soit 5 000 de plus que samedi dernier, selon les estimations du ministère de l'Intérieur, sont descendus dans les rues de France hier pour manifester un 15e samedi de mobilisation globalement calme, en dépit de quelques affrontements comme à Clermont-Ferrand, où 9 manifestants et 2 policiers ont été blessés. Une mobilisation qui survit donc au grand débat, au dérapage du week-end dernier à Paris, ainsi qu'aux violences récurrentes lors des phases de dispersion. Des gilets jaunes qui ne cachent pas pour certains leur lassitude de ne rien voir venir, mais qui font en sorte de rester mobilisé comme ceux qu'Alain Gastal a pu rencontrer hier dans la manifestation toulousaine.
On n'est pas fatigué est un de leurs slogans préférés, mais beaucoup de gilets jaunes en sont quand même à leur 10e, voire à leur 15e samedi consécutif de manif. Malgré le grand débat, les mesures annoncées au mois de décembre, ils continuent de se mobiliser. Parmi eux, Michel, salarié, pas parmi les plus malheureux, selon son propre aveu. Pour lui, c'est l'enjeu qui mérite cette mobilisation au long cours.
Malgré tout, malgré le fait que ça nous prenne notre samedi, on s'est dit non, on a envie. On ne lâche pas et en plus c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, vos petits-enfants, vos enfants. Il y a un truc qui est clair, c'est qu'on ne peut pas accéder au bonheur quand l'inégalité règne autour de nous. Et c'est le cas. L'inégalité, elle devient trop significative. Et ça, on ne peut pas accéder au bonheur. Et les gens le perçoivent très très bien. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on arrive à changer.
Seulement voilà, les gilets jaunes sont toujours moins nombreux, désormais aussi un peu moins soutenus par l'opinion. Il manque aussi de relais politiques. À Toulouse seule, l'extrême gauche est présente, ainsi que la CGT, dont le leader, Cédric Cobert, veut toujours croire à un débouché social du mouvement.
Nous, on donne rendez-vous dans les boîtes par toutes les initiatives possibles pour peser sur la création de richesses. Les forces de police qui sont en train de nous encercler en ce moment d'ailleurs tentent de siffler la fin de la récré, mais on voit que cette récré, elle dure depuis plus de 3 mois maintenant et c'est pas terminé.
Et les Gilets jaunes prévoient de nouvelles initiatives, dont une à Paris au mois de mars. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Et oui, c'est en effet en mars, le 15 mars, très exactement que prendra fin le grand débat national lancé mi-janvier par Emmanuel Macron, une échéance qui pourrait être suivie de décision.
Emmanuel Macron qui s'est offert hier une véritable visite marathon dans le cadre de l'inauguration du Salon de l'Agriculture.
Le chef de l'État en effet passé plus de 14 heures hier dans l'enceinte du Salon, au contact des animaux, des paysans et des visiteurs. Une visite plutôt calme, il faut dire que les contestataires et gilets jaunes étaient gardés à bonne distance. Visite au cours de laquelle Emmanuel Macron a souligné sa volonté de tout mettre en œuvre pour parvenir à une politique agricole commune réinventée. Un chef de l'État très sollicité au fil des allées. Visite suivie par Fabien Randriana Rissoir.
Tout au long des allées du salon, le président a tenu à prendre le temps de l'échange avec tous ceux qui l'interpellaient, quitte à parler parfois de tout, sauf d'agriculture. Les retraites, la CSG, le référendum d'initiative citoyenne, la déambulation a parfois pris des allures de meeting politique. D'accolade en selfie, le président a savouré les bains de foule, prenant même le temps d'assister à une émission de cuisine, quitte à prendre 5 heures de retard sur le programme. Sa vision du monde agricole, Emmanuel Macron a surtout pu la développer à huis clos, dans un second temps, sans visiteurs ni journalistes, pour reprendre le thème européen développé dans son discours du matin, une politique agricole commune forte et protectrice des producteurs comme des consommateurs.
Arrivé à 8h47 hier matin à l'entrée du salon Porte de Versailles, le chef de l'État en est reparti à 23h27 hier soir.
À l'étranger, le sommet sur la pédophilie va se terminer en fin de matinée au Vatican. Il va se terminer par un discours du pape François.
Oui, le chef de l'Église catholique qui devrait à cette occasion renouveler son souhait de voir les évêques prendre des mesures concrètes et efficaces contre les abus. Durant 3 jours, les participants à ce sommet ont donc écouté les témoignages parfois poignants de victimes abusées. Ils ont même pu entendre un cardinal tribunal allemand proche du pape révélait que l'Église avait détruit des documents concernant des ecclésiastiques soupçonnés d'agression à caractère sexuel. Hier soir, les évêques ont demandé pardon pour leur faute au cours d'une cérémonie suivie par Mathilde Imberti.
Les évêques font pénitence dans la salle royale du palais apostolique. Ils demandent pardon pour leur faute dans les scandales d'abus sur mineurs. Ils viennent d'entendre une nouvelle fois une victime leur dire sa souffrance, un homme chilien.
Quel que soit l'abus, c'est l'humiliation la plus grande qu'un être humain subit. Quand on vit l'abus, on voudrait mettre fin à tout, mais ce n'est pas possible. Ce qui fait le plus mal, c'est la certitude que personne ne te comprendra et cela reste en toi pour toute la vie.
La victime entame au violon un air de Bach pour l'assemblée. Le pape ému prend la parole. Nous devons examiner où des actions concrètes sont nécessaires, dit-il. Répète-t-il plutôt, car du concret, il en promet depuis le début du sommet. Quelle forme pourront prendre ces mesures? On s'achemine probablement vers la rédaction d'un vademécum, un rappel noir sur blanc des règles à suivre pour les évêques. Des mesures sont envisagées aussi pour aller vers plus de transparence. Les évêques les plus libéraux réclament des statistiques précises sur les abus et la levée du secret pontifical. Le cardinal Marx en particulier, président des évêques allemands, est proche du pape qui a secoué l'auditoire hier en reconnaissant que l'Église avait détruit des dossiers empêchant ainsi la justice de passé. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
À l'étranger, encore en bref, la tension monte autour du Venezuela. 300 personnes ont été blessées en tentant de faire entrer de l'aide humanitaire à la frontière avec la Colombie. Deux autres ont été tuées, semble-t-il, dans les mêmes circonstances à la frontière, cette fois-ci avec le Brésil, dans le cadre d'affrontements avec les forces armées vénézuéliennes. De son côté, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a indiqué dans un tweet que le temps était venu d'agir pour soutenir les besoins du peuple vénézuélien désespéré. Fin de citation.
Retour en France, Serge, en marge de la situation sociale, un autre sujet s'est inscrit dans les conversations. Il s'agit du temps et de sa douceur.
C'est bien simple, avec des températures dépassant allègrement les 16 degrés dans la journée et par un soleil splendide, on se croirait au printemps. Alors que je vous le rappelle, nous sommes encore en hiver. Conséquence, les plantes fleurissent un peu partout et les marchés aux fleurs ont du succès. Ce fut le cas hier au marché aux fleurs de Tours où Aïdane, une horticultrice de la Chapelle Honneau, était venue vendre ses jonquilles.
Aujourd'hui, je propose des jonquilles. Bientôt, ce sera les tulipes, agrémentées de jolis feuillages aussi, du jardin. Et effectivement, ça ramène la bonne humeur, le soleil, les fleurs, les jonquilles, ça sent le printemps. Et les gens sont heureux, voilà.
Et vous aussi?
Ah bah moi, le soleil, c'est quand on travaille dehors, c'est beaucoup plus agréable de travailler en plein soleil. Donc oui, c'est un vrai bonheur. Donc oui, le soleil plus de jolies fleurs. Les gens sont beaucoup plus enthousiastes à acheter, effectivement. Elles sont toutes fraîches, les jonquilles. C'est le début de la saison. Donc on en a pour un mois et demi de jonquilles. C'était le mimosa avant, maintenant c'est les jonquilles. Quand elle est vendue au printemps, elle plaît. Parce qu'elle, forcément, elle rappelle le beau temps, le retour du soleil et la première tache de couleur dans le paysage. Là, en ce moment, oui, c'est une fleur qui plaît. Après le reste de l'année, c'est peut-être un peu plus boudé parce que c'est plus de saison, en fait. Si ce soir tout est parti, c'est du bonheur. J'espère, oui.
Une horticultrice visiblement heureuse, rencontré par Denis Guay de France Bleu Touraine. Quant au temps printanier, il devrait lui se poursuivre encore quelques jours. Un hommage pour refermer ce journal, un hommage à un monstre américain de la comédie musicale, Stanley Donen, décédé d'une attaque cardiaque en fin de semaine à New York à l'âge de 94 ans. Alors, si vous vous demandez encore quel fut le succès de Stanley Donen, vous allez le savoir dans un instant, mais attention, vous risquez d'avoir cet air dans la tête toute la journée. Une correspondance de Loïc Pialin. I'm singing in the
rain. La légende dit qu'un Gene Kelly fiévreux a tourné l'inoubliable scène dans les flaques en une seule prise. La production aurait même utilisé du lait pour qu'on voit mieux la fausse pluie. Une rumeur clarifiée par Stanley Donen sur la chaîne ABC à l'occasion des 60 ans du film.
Absolutely false.
Totalement faux. On ne peut pas faire plus faux. Come on
with the rain, si Chantons sous la pluie fait partie des films les plus reconnus de l'histoire du cinéma, il est passé quasiment inaperçu aux Oscars à l'époque. La seule statuette jamais remise à Donen, c'était un Oscar d'honneur en 1998 avec un discours de remerciement mémorable.
Ce soir, les mots paraissent inadaptés. Dans une comédie musicale, c'est là qu'on se met à chanter. So, heaven.
I'm in heaven. Et Donen de coller la statuette contre sa joue et d'enchaîner quelques claquettes. Son conseil au réalisateur avide de récompense, s'entourer des meilleurs.
Et quand le tournage commence, vous vous pointez et vous les laissez faire. Mais il faut se pointer, sinon vous ne pouvez pas vous attribuer le mérite et récupérer l'une de ces statuettes.
À Los Angeles, Loïc Pialin, France Inter.
Singing in the Rain et les inoubliables pas de danse de Gene Kelly. Cela remonte à 1952, ça nous rajeunit Eric. Et ce fut donc l'œuvre de l'ancien danseur de Broadway, Stanley Donen, mort cette semaine à l'âge de 94 ans. Restons un instant aux États-Unis, où aura lieu la nuit prochaine à Hollywood la cérémonie des Oscars. Nous en reparlerons dans le journal de 9h. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de notre danseur mondain, Eric Delvaux.
Et je fais des claquettes si vous le souhaitez. C'était le journal de Serge Martin.